dimanche, RVE, il est 9h.
Joyeux Noël à tous, tous.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, joyeux Noël à toutes et à tous. Mais avant Noël, eh bien, on va vous offrir un beau cadeau. Hein. C'est la grande rétro de l'année sport 2007, hein, 9h, 11h, spécial rétro. Il y a tout plein d'intervenants, tous ceux qui font l'actualité. Donc à longueur d'année, eh bien, on les aura cette fois-ci comme grands témoins pour commenter effectivement l'actualité d'une année sportive 2007 qui, d'une façon générale, n'a pas été très favorable au sport français. Mais enfin, on y reviendra. Alors, on va donc faire un tour de table et puis certains arrivent aussi donc dans quelques minutes. On commence avec celui qui fait la passe de 3. Il était là à la mi-novembre, il était là il y a 15 jours. Il revient nous faire la grande rétro du tennis. C'est Hervé Guérin. Hervé, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde.
Depuis 15 jours.
Ça va, fraîchement.
Très bien. Et ensuite, ils sont venus nombreux, donc des Verts de Rambouillet et Saint-Etienne. Ils vont partir pour Geoffroy Guichard. Ils vont avoir très froid ce soir pour le dernier match de la Ligue 1 de 2007. Mmh. C'est nos amis de donc Bibi Moreau et David, des Verts
Philippe.
De Rambouillet.
Bonjour Philippe.
Venus parler de ballon rond, messieurs.
Tout hein, à fait.
Faire un petit peu le bilan de l'année 2007 de foot, en parlant d'une année 2008 où on va se régaler. Hein.
Ben, on l'espère tous.
Très bien. Et puis, ceux qui nous parleront aussi des sports olympiques, ils sont là, les sports olympiques individuels et collectifs. Hein, Hervé Joly. Salut Hervé.
Bonjour Philippe.
Ça va bien ?
Ça va bien, ça va bien.
Belle année de sport.
Tout à fait. Et puis une année 2008 encore plus intéressante qui se profile à l'horizon.
Ah oui, année olympique à Pékin. On rêve tous d'aller à Pékin. Et puis donc, Sylvain, celui qui a rencontré la neige au Maroc. Sylvain Bazin. Salut Sylvain.
Salut Philippe, salut à tous.
Oui, le trailer, hein, c'est ça.
Oui, c'est tout à fait, oui.
Alors on attend aussi Lionel Guengili qui va venir nous parler de sport mécanique. On a vécu une grande année de sport mécanique. Mmh. On aura Jean-Luc Mayuri qui, lui, va arriver aussi. Il sera un peu en retard, Jean-Luc, donc qui va arriver, hein, mais pour les rugby, les troisièmes mi-temps, c'est toujours un peu difficile. Et puis, donc, on a aussi notre ami Olivier Bourdin au téléphone qui nous fera le bilan d'une saison de vélo bien difficile. Voilà, allez, tout de suite la pub, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. On va revenir sur les temps forts donc, de cette année sport 2007. On y va. Oui, Hervé. On est à l'antenne, alors on y va. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire, alors on va le dire ce matin. On va justement commencer, allez, par les sports olympiques, hein, les principaux, l'athlétisme et puis la natation, entre autres. Alors, Sylvain, on va revenir, et puis Hervé, on va d'abord revenir sur des championnats du monde d'athlétisme qui ont été très décevants. Hein. Je crois que c'est un des plus mauvais mondiaux. Il y a eu deux médailles d'argent seulement avec Johan Diniz et donc Ménil à la perche, c'était sur Osaka. Quatre médailles au championnat d'Europe en salle avec une argent, trois bronzes. Il y a eu malgré tout, dans les temps forts, un record du monde du 100 mètres par Powell, le Jamaïcain, en 9,74. Et puis aussi Gebrselassie, hein, qui a battu le record du monde de marathon, faut pas l'oublier, 2h, 4 minutes et 6 secondes.
26 secondes.
Ah, ouais. Moi j'avais noté 6 secondes, mais enfin ça sera 26. Assez important.
Pour il a encore une petite marge du coup.
Bon, d'accord, alors 26 secondes. C'est les temps forts donc, de cette année d'athlétisme. Sylvain, comment expliquer d'abord que la délégation française n'ait pas été très bonne aux mondiaux? Est-ce que l'équipe de France n'est pas revenue à son véritable niveau finalement?
Oh, on peut dire ça après.
Si on enlève Sani puis Helsinki, 2-3 médailles, c'est à peu près ce qu'elle est.
C'est souvent le bilan, effectivement, plus classique. Hein. Bon, après, ça se joue pas forcément à grand chose. Et puis, on est un peu entre deux générations. Donc, il y a celle qui est partie avec Media Ghana, et tous ces gens-là qui faisaient pas mal de médailles. Et puis, il y a celle qui commence à arriver, mais qui est encore un petit peu jeune. Donc, il y a beaucoup d'espoir encore dans la délégation française cette année qui ont fait plutôt de bons résultats. On peut penser à des gens comme Fadil Belabousse, Elodie Guégan sur 800 mètres qui se sont bien comportés, qui ont battu leur record personnel par exemple. Bon, ils sont pas encore au niveau d'atteindre les finales ou il y a de la marge par rapport au podium, mais bon, ce sont des gens qui progressent, donc il y a quand même un espoir, je pense, pour peut-être pour les prochains Jeux Olympiques ou pour les suivants.
D'accord.
Donc c'est plutôt, je pense qu'il faut rester quand même optimiste. Et puis bon, on peut aussi expliquer ce maigre bilan par le fait que l'athlétisme, c'est quand même un sport où il y a une véritable rivalité mondiale qui est très dure, quoi. Hein. C'est quand même un des seuls sports où l'Afrique peut s'exprimer à armes égales avec les autres continents. Donc ça fait quand même une différence aussi. Hein. On le voit forcément dans les courses de fond, mais pas que dans les courses de fond. Donc il y a tout ça qui entre en jeu. D'ailleurs, les deux médailles françaises sont aussi dans des disciplines où la concurrence est un tout petit peu moins mondialisée aussi. Hein. La marche, bon, c'est vrai que l'Afrique marche moins. Mmh. Et puis la perche, qui elle reste plus réservée à l'Europe et aux États-Unis. Donc bon, sans vouloir minimiser les performances de Diniz et Ménil qui ont sorti la performance le jour J, ce qui est
bien. Et donc les deux records du monde, hein, c'est les deux plus beaux de l'année. Hein.
Bah évidemment, oui, c'est les deux distances un peu
mythiques,
ouais. Et donc avec Asafa Powell qui donc bat le record du monde du 100 mètres sur un meeting de Rieti, qui est toujours un petit peu, qui vient en fin de saison, qui a un meeting un peu champêtre. Bon, il y a eu auparavant des rumeurs sur la longueur réelle de la piste de Rieti, parce qu'on a toujours du mal à expliquer pourquoi il y a tant de records du monde battus dans ce meeting qui est quand même loin d'être un des principaux meetings du calendrier. Et bon, là, c'était une course assez bizarre d'ailleurs, parce que c'était en série. Mmh. Donc il n'avait pas du tout d'adversaire à sa mesure. Hein. Le deuxième doit être en plus de 10 secondes, hein, 10,06.
9,74 là, il fait.
Et voilà,
c'est énorme. Hein. C'est énorme.
Et surtout, ouais. En plus, il le fait en relâchant complètement les 10 derniers mètres. Il déroule et puis pof, on voit le chrono, 9,74. C'est assez étonnant. Alors c'est sans doute aussi le type de course qu'il préfère. À savoir qu'au championnat du monde, par contre, on l'a vu complètement désorienté face à Tyson Gay. Mmh. On sentait bien que la course, il l'avait perdue avant le départ. Gay était vraiment là pour gagner. Et puis, Asafa Powell, on sentait qu'il avait, mm-hmm. il avait vraiment envie d'être ailleurs. Et, mm-hmm. et d'ailleurs, il finit que troisième.
Et Gebrselassie, donc 2h04, 26 secondes.
Bah là, il rentre vraiment dans l'histoire de l'athlétisme. Et, bon, je pense, enfin, il y était déjà, mais là, il renforce vraiment sa stature de un des plus grands coureurs de tous les temps. Mm-hmm. Vraiment, très belle.
Un petit complément à ce qu'a dit donc Sylvain sur l'année d'athlétisme qui, c'est vrai, restera pas une grande année pour cette discipline en France. Hein.
Non, on est bien d'accord, mais bon, je crois que Sylvain a parfaitement résumé tout ce qui s'est passé au long de l'année 2007. Je voudrais juste rajouter une toute petite chose par rapport au bilan des mondiaux de cet été. Une des raisons supplémentaires, je dirais aussi, c'est la défaillance, on va dire, pour différentes raisons, notamment de blessures, mais des leaders, des gros leaders habituels de l'équipe de France.
Oui, mais il y a des raisons, ça doit y avoir des raisons.
Bien entendu. Mais bon, habituellement, les médailles reposent sur un nombre de personnes extrêmement restreint. À partir du moment où il y a des défaillances parmi ces leaders, je pense par exemple, entre autres, à Nice Barber ou Christine Aron. Effectivement, le bilan ensuite, il est extrêmement mitigé, puisque une fois qu'on a retiré ces 2-3 personnes, c'est tout à fait dans le même contexte qu'il y a quelques années, où tout reposait sur Marie-Josée Pérec, peut-être. Lorsqu'elle n'était pas à la hauteur, on perdait 75 à 80% des médailles de l'équipe de France.
Et puis certains
il faut l'accepter comme ça aussi.
Et puis certains qui ont mal couru, comme Mehdi Bala, quoi. Il a couru.
Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que on n'a pas énormément de gens qui sont potentiellement médaillables, hein, comme dans d'autres sports d'ailleurs. Donc c'est sûr que s'il y en a 2-3 qui passent à côté. C'est...
Voilà. Alors sur un plan local, Sylvain, il y a une bonne nouvelle, c'est l'inauguration de la nouvelle piste. D'athlétisme sur Ambouillet, ça fera partie quand même des grands moments. Ça a été inauguré, je crois, il y a 15 jours. Nous, on était sur le Téléthon, hein, mais...
Tout à fait, oui. Donc, une piste qu'on attendait depuis quelques temps.
C'est Raymond Coppa qui l'avait inauguré en 88.
Oui, l'ancienne version. Ouais, donc, effectivement, ouais, ça a commencé 20 ans. Ouais, c'est une durée de vie déjà correcte pour une piste d'athlé. Mm-hmm. Donc, là, elle a été inaugurée. Alors, il reste encore les couloirs à tracer, mais bon, ça ne nous gêne pas tellement pour l'entraînement, donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle au niveau de Rambouillet. Et pour Rambouillet Sport Athlétisme, c'est quand même un outil important.
Très bien, et puis quand on parlera de minuit, on parlera un peu de vos projets aussi, parce que vous allez monter un trail, et puis vous avez rencontré la neige au Maroc.
Oui, j'ai participé à une course là dans le Haut Atlas, et donc là effectivement, conditions extrêmes, il faisait moins 15, 40 cm de neige au sommet. On s'attendait quand même pas vraiment à ça, et les coureurs marocains non plus d'ailleurs, donc c'était spécial.
Allez, autre sport olympique connu, natation. Alors là, ça a été une année bien meilleure pour nos couleurs, hein, puisque on a eu au championnat du monde de Melbourne, on a eu donc 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze, donc soit 7 au total, et donc 5... Donc 5, 2 or, 2 argent et une bronze pour la seule Laure Manaudou. Ça reste un des espoirs sûrs de médailles pour les Jeux, malgré toutes les déboires. On n'est pas là pour parler de ça. Mais ça reste en tout cas, Hervé, celle qui va vraisemblablement encore faire table rase au niveau des médailles pour la délégation française à Pékin.
Oui, oui, tout à fait. On va se cantonner simplement au côté sportif. Hein. Oui. On ne va pas rentrer dans la polémique. Alors c'est vrai que bon, Manaudou, bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, même si c'est beaucoup plus restreint en natation. À elle seule... Elle supporte et apporte les plus grands espoirs pour la natation française, notamment en ce qui concerne les Jeux de Pékin qui sont à venir, même si derrière on voit percer quelques nageurs. Ouais, voilà, un Richard, je pense aussi à Bernard chez les hommes, et puis chez les filles, on a vu Popanchka qui commence aussi, je pense aussi à Baron qui commence aussi à arriver au niveau des podiums au niveau international. Donc là, toutes ces filles-là, tous ces gens-là, il va falloir les attendre, mais bon, Manaudou, ça reste effectivement gros morceau de l'équipe de France. Alors attention, parce que c'est une année olympique, ça veut dire qu'il y a des gens qu'on a très peu vus depuis quelques mois, voilà, exactement. Je pense notamment plus particulièrement aux Américains et aux Américaines. On sait que actuellement aux États-Unis ils sont en train de préparer des nageuses qui sont un petit peu, je dirais, entre guillemets, programmées anti-Manaudou. Ouais. C'est-à-dire qui vont être là pour la contrecarrer, notamment dans les distances où elle est un petit peu en difficulté. Je pense par exemple aux 800 mètres, où on l'a vu notamment lors des derniers championnats du monde, où elle s'était retrouvée face aux Américaines, et puis quelquefois un petit peu en difficulté, où elle avait terminé que deuxième, je le rappelle. Bon, bien entendu, il y a son précaré qui est le 400 mètres, mais attention quand même, hein, parce que il y a une marge de sécurité, mais on sait qu'en natation ça évolue très vite. Et puis je pense qu'elle a une carte à jouer sur des distances un petit peu plus inhabituel pour elle, même si on l'a vu, elle vient de battre à nouveau le record d'Europe du 100 mètres d'eau qui lui appartenait déjà. Je pense que le 100 mètres d'eau, elle a un petit coup à jouer là-dessus. Alors c'est toujours très difficile de prévoir le nombre de médailles exactes, mais c'est vrai que Manaudou, elle a la possibilité de remporter plusieurs médailles, de différents métaux, voilà. Mais il faut toujours être très vigilant. En natation, ça va vite.
Très bien. Donc, on va rappeler. Hein, donc, 5 médailles à elle seule. Hein, 2 or, 2 argent, 1 bronze lors des mondiaux. Alors que l'équipe de France, donc, on avait remporté 7 hein, total. 3 or, 2 argent, 2 bronze. Au championnat d'Europe de petit bassin la semaine dernière, il y a eu 13 médailles. 4 or, 4 argent et 5 bronze. Hein, donc, ça confirme effectivement la bonne santé de la natation française. 3e nation donc, européenne sur ces championnats donc, d'Europe. Et puis, je voudrais avoir quand même une pensée pour une fille qu'on a rencontrée il y a un mois, qu'on a interviewée au prix du fair play. C'est Virginie de Dieu, hein, qui pour son retour a obtenu un 3e titre de championne du monde de solo en nage synchro. Elle avait abandonné, elle est revenue spécialement pour ce titre et elle a décidé de remettre un terme à sa carrière. En plus, c'est une fille sympa, donc c'est bien. Ça fait partie des grands exploits de cette année sport, donc 2007. Alors, messieurs, maintenant, parmi les autres sports olympiques principaux, on va parler de judo quand même, hein, le judo qui revient à un bon niveau. Il y a eu 9 médailles au championnat d'Europe, 5 or, 1 argent, 3 bronzes, 2 médailles au championnat du monde, 2 or, 1 argent, 5 bronzes, dont Teddy Riner, hein, qui est champion du monde, toute catégorie. En escrime aussi, bon résultat, 7 médailles, 4 or, 3 bronzes au championnat d'Europe, et 8 médailles, donc 4 or, 2 argent, 2 bronzes au championnat du monde. Ce sont des sports qui vont, là aussi, nous rapporter des médailles pour 2008.
Hein. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que l'escrime, dans l'histoire des Jeux Olympiques, en ce qui concerne la France, est le sport qui a rapporté le plus de médailles à la France. Hein. On retrouve derrière des sports, bien entendu, comme le judo, mais le judo c'est plus récent, puisque le judo n'est aux Jeux Olympiques que depuis 64 et les Jeux de Tokyo. On retrouve habituellement aussi l'équitation pour l'équipe de France, mais l'escrime ça a toujours été un sport qui a toujours eu remporté beaucoup de succès, notamment pour l'équipe de France, aussi bien en individuel que par équipe, et je crois que ça sera encore le cas en 2008 à Pékin.
Oui, et puis le judo qui n'avait pas été très bon sur Athènes, c'était qu'un accident de parcours. Hein. Teddy Riner, ça c'est des chances de médaille, Sylvain.
Ah oui, bien sûr, et puis là, peut-être pas que pour Pékin, mais il est quand même très jeune, donc on peut espérer qu'en 2012, ça soit encore fonctionnel. Oui.
Très impressionnant, oui.
Comment
il est très impressionnant, oui.
Et puis je voudrais rappeler, juste pour finir là-dessus, justement, on retrouve un point commun entre le judo et l'escrime. Le judo et l'escrime font partie des fédérations, c'est pas le cas de toutes les fédérations sportives, qui automatiquement reversent leur ancien champion dans le giron fédéral. Donc on retrouve énormément d'anciens champions olympiques, champions du monde, qui sont soit entraîneurs, soit à la fédération, et... Peut-être que ceci explique cela aussi.
Hein, Jean-Luc Rouget, effectivement.
Une très bonne démarche, oui.
Ouais.
C'est pas dans toutes les fédérations, mais.
Dans le tennis, ça se fait,
Ça se fait, oui. Non, mais c'est vrai, mais. C'est bien, effectivement. Il y avait, on en est sur Stade 2 là, encore dernièrement, où il parlait justement de reconversion des athlètes de haut niveau. Et donc ça se faisait pas partout, hélas, mais je crois que ça c'est une très bonne chose.
Alors, dans les autres sports, l'aviron, 4 médailles, 4 médailles d'argent au championnat du monde de Munich, en Allemagne, et puis en canoë-kayak, une or, 2 argent, donc aux mondiaux. Là aussi, on peut aller chercher quelques médailles pour l'aviron et puis le canoë.
C'est jouable, après, c'est vrai que ce sont des sports, c'est pareil, la concurrence est rude, donc ça se joue à pas grand-chose, faut être là le jour J. On verra.
Oui, le canoë-kayak, notamment, je pense qu'il y a des coups à jouer, notamment à Pékin. Mais c'est vrai que on retrouve un petit peu toujours les mêmes pays et ça se joue à très très peu de choses. Le canoë-kayak, entre le premier et le cinquième, quelquefois, c'est vraiment rien du tout. Il faut être très vigilant, mais il y a des valeurs sûres au canoë-kayak, bien entendu. Et puis en aviron également, même si en aviron, on sait que depuis quelques années, le cercle des pays... potentiellement médaillable, on va dire, s'élargit. Il y a plus seulement les grosses nations de l'aviron, comme bien entendu la Grande-Bretagne. On voit de plus en plus de pays de l'Est, on voit de plus en plus de pays émergés, même maintenant en Asie. C'est aux Jeux Olympiques, c'est toujours beaucoup plus difficile de ramener des médailles, mais comme dans tous les sports en général.
Allez, on va passer aux disciplines d'hiver. Disciplines olympiques d'hiver, je sais que Sylvain aime bien ça, c'est un bon spécialiste. Alors Brian Joubert, lui, il est champion d'Europe et champion du monde, donc ça a été vraiment une année phénoménale pour celui qui avait un peu raté ses Jeux de Pékin.
Tout va bien pour lui. Je pense qu'il a, après les Jeux, il a repris aussi un peu... son entraînement en main, enfin au niveau conditions physiques, il a retravaillé des points faibles et je pense que c'est ce qui devait lui manquer pour être encore plus fort.
Ça sera un des grands sportifs de français de l'année. Je crois qu'il sera sur le podium des trois français.
Il y a de fortes chances.
Champion du monde, champion d'Europe. Ouais. Et puis Delobel, Schoenfelder ont aussi été champions d'Europe de danse sur glace, il ne faut pas les oublier. Et puis on citera, tiens, pour la petite histoire, qu'il y a la patinoire de Rambouillet actuellement. On était l'autre jour en interview avec Bernadette à Bilbol, qui ont inauguré donc cette patinoire sur Rambouillet. Alors le ski, là par contre ça s'est pas trop bien passé. Une seule médaille de bronze au championnat du monde avec Jean-Baptiste Granz, qui a quand même gagné une épreuve de Coupe du Monde.
Récemment.
Et puis Svindal, le Norvégien, et Osp, donc l'Autrichien, ont remporté effectivement cette Coupe du Monde de ski alpin. Par contre ça s'est beaucoup mieux passé en biathlon, où là on est dans la lignée et dans la spirale des bons jeux de Turin, avec 6 médailles, une or, 3 argent, 2 bronze, pour le biathlon français, et notamment un titre de champion du monde de Raphaël Poiret pour donc la fin de sa carrière.
Pour sa retraite, oui, c'était un moment. C'est bien.
Oui, Raphaël Poiret a arrêté sa carrière en mars 2007. Juste deux mots pour dire, parce que je pense que c'est un grand champion français qui a été un peu oublié des médias, notamment télévisés, depuis quelques années.
Il a arrêté un peu ses jeux en 2006.
Il faut quand même rappeler son bilan. Raphaël Poiret, c'est 3 médailles olympiques. 8 titres de champion du monde et 13 globes de cristal, c'est-à-dire des coupes du monde, c'est pas n'importe quoi. Le biathlon, malheureusement, à mon grand regret, c'est un sport qu'on oublie un peu et qu'on retrouve qu'au moment des Jeux Olympiques. Je voudrais rappeler qu'aux derniers Jeux Olympiques d'hiver, heureusement qu'il y avait le biathlon pour la France.
Tout à fait. C'est un sport qu'on voit, surtout sur une chaîne spécialisée.
Très bien. Et puis on va noter que la ville de Sotchi, russe, a obtenu l'organisation des Jeux de 2014.
Je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle.
Oui, je suis à peu près un peu d'accord avec toi, c'est un peu curieux, mais enfin bon, on espérera que tout se passera bien. Bon, c'est vrai que Sochi, c'est même si c'est, il faut pas oublier non plus que c'est pas très loin de du bord de mer, donc on a du mal à s'imaginer.
Oui, c'est plutôt une station balnéaire.
Voilà, mais enfin bon. Apparemment, il y a eu un lobby russe extrêmement efficace.
Très bien. Hervé, un petit commentaire sur ce qu'on vient de dire là sur les principales disciplines olympiques.
Pour le biathlon, justement, là, c'est à Stade 2, c'est lui qui avait été l'invité donc dimanche dernier. Il expliquait que ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement, au niveau des fédérations, le biathlon et autres, le ski de fond, il n'y avait pas d'entraînement, d'encadrement après d'athlètes de haut niveau, et ce qui faisait que la discipline, c'était peut-être une raison pour ça que ça ne se développait pas assez au moins.
Oui, et puis il faut pas oublier, le biathlon, ça a toujours surpris les grands pays de biathlon que sont l'Allemagne, la Russie ou la Norvège, qui eux ont des réserves absolument phénoménales, je pense notamment à l'Allemagne. En France, le biathlon de haut niveau, ça concerne très peu de personnes, il y a moins de 200 biathlètes en France. Ouais. Donc on est toujours très surpris dans les pays étrangers des résultats de la France, parce qu'il y a la qualité s'il n'y a pas la quantité, mais je pense que c'est un sport qui mérite d'être développé.
Et complètement, c'est vraiment un très beau sport, moi qui fais un peu de ski de fond aussi. C'est vraiment une discipline qui demande à ce haut niveau vraiment énormément d'énergie. Les images qu'on voit donc sur une chaîne de sport télévisée, c'est vraiment les courses qui se font, là on en a vu encore quelques-unes qui ont commencé, c'est vraiment impressionnant d'énergie, de débauche d'énergie, ça c'est vraiment fantastique.
Allez, on parle des deux grands sports collectifs, le foot et puis le rugby en deuxième partie, mais on va quand même parler des autres sports olympiques, où là aussi ça n'a pas été très très brillant. On va quand même rappeler donc qu'en handball, l'équipe de France masculine a terminé 4e des championnats du monde. Ce sont les Allemands qui gagnent, mais là on peut dire qu'on a été volé, c'est moins qu'on puisse dire, hein. Donc victoire de l'Allemagne, et puis l'équipe de France féminine, elle, c'était donc tout frais, termine 5e des championnats du monde de hand. C'est la victoire de l'équipe russe, hein. Et en volet, en volet, eh bien l'équipe de France a été aussi très décevante, puisqu'elle a terminé donc 8e du championnat d'Europe. Donc l'équipe de France de volet n'ira pas au jeu. Et puis en basket, équipe hommes et femmes 8e n'iront pas non plus au jeu. C'est donc la Russie qui s'impose chez les hommes et chez les femmes au basket, alors que donc qu'en volley, c'est l'Espagne chez les hommes et l'Italie chez les femmes qui sont championnes du monde. C'était les championnats du monde, hein. Puis pour les clubs, on va rappeler que Roanne chez les hommes et Valenciennes chez les filles ont gagné le titre national de basket, Ivry au handball, Paris et Cannes au volley. Donc Hervé, une grosse déception quand même. C'est vrai que le hand, bon, est à peu près, je dirais, a rempli correctement son contrat. Bon, les filles vont quand même aller devoir chercher cette qualification pour les Jeux.
Tout à fait. Tout à fait.
Bon, le basket, énorme déception.
Oui. Bah, c'est vrai que le basket, quand on voit la qualité des basketteurs français, je rappelle que maintenant il y a de plus en plus, même si on est loin des quotas d'autres pays, mais il y a de plus en plus de basketteurs français qui partent jouer aux États-Unis. Et c'est vrai que quand on voit la qualité des basketteurs français, bon, moi je suis un petit peu abasourdi par les résultats de cette équipe, parce que je pense qu'il y a un potentiel énorme, mais bon, visiblement il y a encore des problèmes à régler, notamment je pense au niveau de, entre guillemets, on va dire, l'entente entre les joueurs, si j'ai bien compris. Et donc ça, on sait que dans tous les sports collectifs, avoir des très bons joueurs, c'est une chose, mais encore faut-il qu'ils s'entendent entre eux, et ça, c'est un petit peu le moteur des sports collectifs. Juste pour revenir très rapidement sur le hand, je voudrais rappeler quand même que le hand féminin, il y a eu un très beau succès populaire, hein, de ces championnats du monde organisés en France. Vraiment un beau succès populaire. Bon, la France, certains esprits chagrins diront ne termine que 5e, mais bon, il faut pas oublier qu'elle a,
quand même,
voilà, et qu'elle a échoué contre les Russes, championnes du monde.
Et puis la Roumanie, en
voilà, voilà. Et puis elles ont sauvé l'essentiel, je dirais, en arrachant la 5e place face à la Corée du Sud, même si ça a été très difficile.
Pour les JO.
Et voilà, et ça leur permettra d'organiser le tournoi, pré-olympique, et en France. Donc encore un avantage, voilà, qui leur permettra peut-être de participer aux Jeux de Pékin, quoi.
Et là, on a vu un très bon esprit d'équipe au niveau de ces féminines.
Oui, moi je pense qu'il y a une carte à jouer chez les féminines.
Et d'ailleurs, il y avait des matchs qui étaient organisés à plaisir, hein, dans ce mondial de hand féminin. Il y a eu des matchs de poule de classement du côté de plaisir. Donc les Russes qui ont gagné chez les hommes et chez les femmes au basket, là c'est assez impressionnant, champion du monde. Et en volley, hein, c'était bien les championnats du monde, l'équipe de France qui termine 8e. Le volley est un peu quand même à la ramasse, hein, derrière. Hein. C'est difficile, hein, Sylvain.
Ouais, cela dit, c'est pareil, c'est quand même un sport où il y a des grosses nations aussi. Bon, le volley français, ils sont souvent quand même un peu dans ces eaux-là. Il y a des moments où ça va un peu mieux. mieux, d'autres, d'autres carrément moins bien. Donc bon, c'est peut-être, enfin, c'est moins décevant que pour le basket où là on a un vrai souci avec des stars de la NBA qui ne font rien.
On va rappeler que Tony Parker, hein, pour les San Antonio Spurs, a quand même été donc a remporté un troisième titre
de champion NBA,
de champion NBA et meilleur joueur et meilleur marqueur en plus.
Oui, donc c'est a priori quand même un petit peu bon, même si les exigences du basket au niveau championnat du monde des nations sont un petit peu différentes de celles de la NBA aussi. Donc bon, il y a peut-être aussi cette explication là. Puis derrière, les États-Unis ne gagnent plus les championnats du monde depuis quelques années aussi. Hein, donc il y a quand même une exigence technique qui est différente.
Et là, on voit bien qu'il faut vraiment un leader dans les équipes. Parce que quand on voit par cœur le nombre de points qu'il a marqué pour la France, c'est phénoménal. Il a marqué plus de la moitié à lui tout seul. Et je crois qu'avoir un leader comme Manodou, comme beaucoup de gens comme ça, c'est indispensable.
Et Claude Bergeau d'ailleurs a démissionné. Donc si vous voulez être entraîneur de l'équipe de France de basket, je vous envoie un beau CV à Jean-Pierre de Vincent Zille, DTN. Hein, et puis qui sait. Voilà. Et puis tiens, pour les titres nationaux, donc Rohan, ça c'est bien. Vous qui avez été Sylvain quelques années du côté de Lyon, hein, c'est des villes de basket, Villeurbanne, Rohan.
Ah oui, c'est
Rohan, champion de France.
Traditionnellement, ouais, c'est des pays où le basket, on vibre basket. Ouais. Donc, Villeurbanne qui a un petit peu plus de mal en ce moment, je crois. Mais...
Et donc, Valenciennes chez les femmes, ça c'est beaucoup plus classique. Elles ont mis fin à l'hégémonie de Bourges, mais enfin bon,
Valenciennes-Bourges,
c'est. Et donc, Ivry pour le handball, ça c'était plutôt bien pour la région parisienne. Et puis, on va rappeler que Paris, donc pour le volley, il y a un bon club de volley à Paris. Et puis, Cannes chez les femmes, ça aussi c'est classique, c'est traditionnel. Hein.
Oui, Paris, Poitiers en volley.
Cannes chez les femmes. Faut rappeler, on a tendance, on
en
parle pas.
En plus,
voilà, on en parle pas souvent, mais bon, moi je trouve que j'ai un peu le regret de pas les voir plus souvent à la télévision. Oui, déjà, t'as parfaitement raison. Il y a des très belles filles dans cette équipe, mais il y a aussi une équipe de très haute qualité. Il faut pas oublier qu'elles ont été plusieurs fois championnes d'Europe. C'est une grande équipe de volley féminin. Malheureusement, le volley féminin ne fait pas partie des sports les plus médiatisés.
Voilà, et puis on n'oubliera pas la prochaine soirée handi-basket qui aura lieu le 2 février prochain dans le cadre de l'opération Handichien. On en parlait la semaine dernière avec un des organisateurs de cette épreuve. Eh bien, il est 9h27, le temps passe très vite. Hervé, c'est l'heure maintenant du tennis.
Bien. Hein ?
Alors, en tennis, il y a deux mots, Federer et Nain.
Federer et Nain, Et comme je dis un peu chaque année, effectivement, l'étau se resserre, le niveau, le très haut niveau se resserre par rapport à ce qu'on voyait il y a 10-20 ans. Mais Federer, même s'il a perdu un tournoi comme Roland-Garros avec Nadal, où il y a vraiment dans les 4-5 premiers, c'est vraiment très serré. On l'a bien vu encore avec Nalbandian qui a gagné au POPB à Paris-Bercy.
Ouais, il a tout gagné, Federer, sauf Paris. Hein, comme Hervé l'a dit, il a perdu Roland-Garros face à Nadal et il n'a pas gagné à Bercy, gagné par Nalbandian.
Voilà, il n'a pas gagné tout ça et pourtant il est numéro 1. Et pourquoi on est numéro 1 ? Et ben c'est sur la régularité tout au long de la saison. Et il arrive en finale pratiquement systématiquement quand il ne les gagne pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à être numéro 1 et c'est ça qui est très difficile. C'est parce qu'effectivement, le niveau des 4, 5, 6 premiers, même des 10 premiers, le jour où ils sont en forme, il n'y a pas de problème. On a bien vu Richard Gasquet qui a réussi à taper Nadal à Shanghai. Et bien voilà, on le voit aussi avec Nalbandian qui a réussi aussi à gagner Federer. Il l'a gagné deux fois cette année, donc c'est possible. Mais donc sur la régularité le long de l'année, mais la différence c'est là avec Federer, c'est son jeu relâché. C'est beaucoup de choses comme ça, de petits rien qui font la différence.
Donc Melbourne, Wimbledon, Flushing Meadows et puis le Masters, c'est le 8e titre du Grand Chelem pour Federer.
Voilà. Ouais. Hein, il n'a pas encore tous les records, mais.
C'est le plus grand champion de tous les temps, plus que Borg, plus que Sampras. C'est bien que c'est des journalistes, ils veulent toujours comparer, hein, nous les journalistes, mais bon.
Je crois que l'époque a beaucoup changé. Hein. Tu prends Borg, il joue encore avec des raquettes en bois. Je veux dire, donc même si pour nous c'est encore récent, moi je jouais déjà à cette époque-là, je veux dire, il y a une évolution à ce niveau-là, même déjà au niveau du matériel. C'est difficilement comparable. Borg est vraiment un monument, c'était une référence. Après, de dire que Federer, c'est sûr, Federer, il a énorme potentiel.
C'est pas fini.
Non, c'est pas fini. Il y a du monde derrière, mais c'est pas fini pour lui, je pense.
Alors, chez les femmes, Hénin a été dominatrice, moins que Federer chez les hommes, mais elle a toutefois dominé, hein, puisqu'elle gagne à Roland-Garros, Flushing Meadows, puis au Masters. Elle laisse quand même à Serena Williams Melbourne et à Venus Williams
un bon retour.
Wimbledon.
Ouais, un bon retour des, des sœurs Williams. Là, je crois qu'ils vont refaire une très bonne année 2008. Là, je crois qu'il faut, absolument pas les laisser tomber. Je crois qu'il va y avoir un gros retour. Mais Hena, même démarche que pour Federer, c'est la régularité. Même si elle avait eu ses, petits ennuis de, santé, c'est la régularité qui prime cette place de numéro 1.
Alors la seule satisfaction française, c'est Bartoli qui est arrivé en finale de Wimbledon.
Voilà, voilà. C'est une très belle chose, comme quoi effectivement, même si Annie Mauresmo a eu ses problèmes de santé avec l'appendicite donc en début de saison, chose effectivement qu'elle a dit elle-même, elle n'aurait pas dû s'inscrire à Roland Garros ni même d'ailleurs à Wimbledon. Je pense qu'elle elle pensait pouvoir se remettre plus facilement de ça. Donc on a eu cette bonne surprise d'une autre française. D'ailleurs c'est la première fois cette année qu'on a deux numéro 1 françaises. Je crois que ça s'était passé dans les années 80, on a eu un peu la même chose. Et bah, pourquoi pas, oui, ça c'est une bonne chose aussi. Il n'y a pas que Mauresmo qui est derrière, qui est devant, pardon.
Alors les USA ont renoué avec la victoire en Fed Cup, je crois que c'est en Coupe Davis, pardon, 32e victoire des Américains. Ils ont battu les Russes 4-1. Et par contre ce sont la Russie, les filles, qui ont gagné la Fed Cup en battant l'Italie 3-0. Malheureusement, nous, on a un syndrome en Coupe Davis, c'est qu'on n'arrive pas à battre les Russes arrivés au quart de finale.
Ben, on s'aperçoit que ces Russes, ils sont très forts. Forts, aussi bien masculin que féminin. C'est ce que je disais encore la dernière fois, là, il y a un mois, on tombe contre Safin le jour où il est décidé et que les services descendent, on ne peut absolument rien faire. Ils ont mis une très bonne équipe russe encore, mais au niveau des choix, on peut un peu discuter là-dessus. Donc les États-Unis, je crois qu'il y avait vraiment une énorme conviction avec Roddick, maintenant qui est managé par Jimmy Connors, donc ancien numéro 1 aussi mondial. Et donc qui est vraiment devenu le leader, et on voit aussi Blake là, qui est arrivé là en numéro 2, qui a un énorme potentiel aussi. Et je crois qu'il y a vraiment eu là aussi un phénomène d'équipe, c'est ce que fait la France avec Guy Forget, vraiment que tous ces jeunes se soudent et qu'on puisse avoir vraiment des bonnes équipes. Mais là, même chose, je crois que vraiment les Américains avaient à cœur de revenir, de gagner. On dit que ça lui tenait vraiment beaucoup.
La 32e ou la 35e Coupe Davis, mais enfin c'est énorme quoi.
Oui, il l'avait pas gagné depuis 95, dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. Et je crois qu'Andy avait dit lui-même, il préférait gagner la Coupe Davis plutôt qu'un tournoi du Grand Chelem, pour dire vraiment sa conviction sur cette épreuve.
Et la Fed Cup, donc les Français sont arrivés en demi-finale, ce sont les Russes qui ont gagné cette année.
Voilà, même topo, hélas. On n'a pas eu de chance, parce que vraiment, là, il y a ce phénomène d'équipe. Même si on a quelques Françaises qui participent pas justement à cette des raisons personnelles qui participent pas à cette Coupe Davis. Alors, on a eu le problème aussi qu'il faut pas oublier donc de Marie Pierce là qui va on espère revenir, parce que là effectivement je pense que si Marie avait été là ça aurait peut-être changé beaucoup de choses aussi dans ce résultat.
Et puis une époque qui nous est chère, les trophées donc en tennis, ça c'est le plus grand local, victoire d'Offargis à nouveau.
Voilà. Petit club, on s'aperçoit qu'il marche très très bien. Faut féliciter Jean-Michel Lesprit, là je sais pas s'il nous entend, on lui tire un petit bonjour. Ça c'est des petits rendez-vous locaux qui sont même importants pour nous, pour des petits clubs. Et c'est toujours très sympathique et les gens ont aiment beaucoup ces rencontres-là.
Très bien, on a été très bavard, on va faire une petite pause musicale, et puis ensuite on va continuer dans cette rétro. Tiens, on va parler automoto et puis même de voile avec Lionel Guérin-Guilly.
On a deux secondes encore, juste pour dire.
Après on a toute la vie devant nous, Hervé. On y va. Voilà, sur les 103.7, on redonne la parole à Hervé Guérin. Maintenant, il a toute la vie devant lui, mon petit Hervé.
Ouais, alors, moi je voulais juste te remercier parce que depuis des années qu'on vient ici, à cette radio locale de RVE. C'est toujours avec plaisir et de pouvoir parler de nos clubs tous en général, de nos activités de façon locale et presque on va dire régionale et même des fois internationale. Alors je voulais juste offrir donc le fagnon du club du club de tennis, ainsi que le macaron. C'est pas très radiophonique, mais enfin bon, alors je vais te coller ça directement sur la vitre et tout ça, et puis le fagnon tu vas l'avoir aussi tout à l'heure de l'autre côté. Voilà, et merci beaucoup à toi, Philippe, de nous donner ces heures d'antenne.
Eh ben c'est bien. Allez, on va maintenant parler de sport mécanique, entre autres, avec Lionel Guiringuilly. Lionel, bonjour.
Bonjour.
Alors Lionel, bonjour, d'abord, félicitations. Tous. Il est grand-père, Lionel, pour la troisième fois.
Oui, félicitations.
De cette nuit seulement. Hein.
De Guyane, c'est ça hein.
De Guyane.
Comment ça faire soif.
Un petit fils, c'est pour ça que, bon...
Ouais. Hein.
Voilà.
Alors Lionel, on a vécu une super saison de sport automobile, tant pour les rallyes avec l'homme, mais on va donc en reparler, qu'en Formule 1, parce que toute la saison de Formule 1, il y a eu une lutte entre Alonso et puis Hamilton, et finalement, c'est un troisième larron qui gagne, Raikkonen.
Oui, au détriment surtout de l'Alonso, parce que malgré tout, je pense que McLaren a voulu médiatiser, faire un peu de bruit sur le moment, mais moi je trouve que, personnellement, que c'est dommage, ils ont perdu le championnat du monde, pour des petites histoires de entre les deux pilotes quoi.
Ça rappelait un peu Prostena il y a.
Mais on le voit tout le temps parce que quand on commence à avoir des pilotes de même dimension, de même à ce niveau, on peut plus parler de dimension, c'est gigantesque, mais. Les gars, là, il y a eu quelque chose qui a pas fonctionné. On le voit bien déjà dans les ravitaillements où il y a eu vraiment, ça a été tout et n'importe quoi et on a fait rentrer les voitures en même temps. Enfin, il y a plein de trucs qui ont cloché dans le truc et ça n'a pas fonctionné. Alors bon, c'est un peu dommage de perdre un championnat du monde alors qu'ils étaient sur le plan technique gagnants.
Ouais. Et l'histoire d'espionnage, ça a pas joué.
Je pense que l'histoire d'espionnage a défavorisé Alonso. Je pense qu'ils ont misé beaucoup sur Hamilton, qui est quand même que dans sa première année, et comme on est un peu fougueux quand on est jeune, il y a des petites erreurs qui se commettent. Malgré tout, c'est une pointure, ce monsieur, c'est tout à son honneur. Mm-hmm. Mais pour une première saison, d'arriver à ce niveau, c'est presque extraordinaire, quoi. Mm-hmm. Malheureusement, c'est au détriment puisque Ferrari a profité de l'occasion.
Oui, donc Ferrari qui remporte donc le championnat du monde des constructeurs.
Comme quoi, en sport, on s'aperçoit que tant que le drapeau à damier n'est pas tombé, la course n'est pas gagnée et que là, en l'occurrence, Ferrari a joué un jeu d'attente en fait derrière tout ça et a compris qu'il pouvait remporter le championnat.
Donc Raikkonen lui s'impose sur le fil devant Hamilton qui est deuxième et Alonso troisième.
Tout à fait.
Alonso qui revient d'ailleurs chez Renault.
Mais je trouve que ça manquait un peu de panache. Je trouve que pour le spectateur et ce qui a été fait, c'était magnifique parce qu'enfin on a vu des grands prix intéressants et c'est quand même autre chose qu'il y a quelques années
où il y avait trois voitures devant. Ouais, c'est toujours chouard.
Voilà. Et il y a quand même eu du suspense jusqu'à la fin, quoi. Je veux dire, ça se tenait dans un mouchoir de poche. Mm-hmm. Mais bon. Mmh. Bon, c'est...
Alors, il y a une bonne année pour une bonne nouvelle pour 2008, c'est l'arrivée de Sébastien Bourdais, quatrième titre de champion du monde de Shankar. On a enfin un pilote français en Formule 1.
Oui, tout à fait, on a un pilote français en Formule 1, mais avec Toro Rosso, la partie va être difficile à jouer, quoi. Parce que cette année, il faut savoir quand même qu'Alonso retourne chez Renault. Mmh. Puisque le contrat est signé. Et Renault va travailler énormément parce que malgré tout, je pense qu'ils avaient de très bons pilotes cette année. Mais le problème, c'est que pour développer une automobile de cette, c'est de la deux mesures, c'est de la deux mesures techniques. Et je pense que Renault cette année va faire de gros efforts avec Alonso, parce qu'il faut quand même savoir qu'Alonso est un bon pilote, qui connaît bien l'écurie, qui sait comment elle fonctionne. Et je pense qu'il était un peu au paradis. Je pense qu'il a commis une toute petite erreur de partir. Et je pense que s'il revient, il y a vraiment des raisons. Et je pense que Renault va travailler beaucoup. Je pense que cet hiver, je pense qu'ils vont travailler énormément. Et on verra d'autres choses.
Hervé, qui aime bien la Formule 1.
Je crois que là, il y a un point important à jouer, de ne pas perdre de temps déjà, du fait qu'ils se connaissent. Je crois que ça va être très important. Et moi, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que Michelin aussi revienne. ça serait pas mal, ça aussi.
Tout à fait, un constructeur de chez nous.
Voilà, enfin, exactement.
Pourrait s'exprimer un peu, c'est vrai. Mais je pense que Renault va vraiment travailler, je pense.
Mais j'espère que ça va faire une belle bataille avec les trois, avec Ferrari et puis le.
Tout à fait. Et McLaren, Hamilton, malgré tout, sera là. Et bah, forcément, il y a un enjeu l'année prochaine, à mon avis. Ouais. Alors, Bourdais, on a une parenthèse, mais Bourdais, c'est quelqu'un de haut niveau. Maintenant, le matériel est tellement. On joue plus sur la technique et la technologie. Il faut savoir qu'un n'importe quel pilote monte dans la McLaren ou dans la Ferrari, il va être dans les premières places, quoi, parce que ils sont tous au même niveau, je veux dire, de pilotage. Il y a quelques centièmes, mais les centièmes sont sur.
Donc ça n'a pas changé, c'est encore la voiture qui fait la différence.
Bah, pour l'instant, la voiture fait quand même un peu différent, mais moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. On s'est aperçu quand même que cette année, il y a des gens qui ont réussi à faire des places très honorables, et
les stratégies de course vont être aussi très importantes. Je ne sais pas si ça va changer encore cette année ou
le
pas.
Le règlement,
mais
je ne sais pas comment il va être.
C'est toujours un peu la surprise maintenant, mais je crois que là aussi, il faut vraiment être très, très, très affûté à ce genre de choses.
Tout à fait, tout à fait. Et là, il y a vraiment... c'est dans les stands, souvent, que le Grand Prix se joue aussi.
Ah oui, complètement.
Il suffit de toute la rondelle qui ne prend pas, le boulon qui ne se visse pas. J'en parle en connaissance de cause.
J'allais le dire, Lionel, il sait quoi genre, parce qu'il vient à chaque fois donc, parler sport automobile et il fait des dépannages. Leur corps, c'est quoi c'est quoi leur corps le dépannage corps, une casse mécanique et puis...
C'est un démarreur soudé sur la grille de départ, par exemple. C'est tout. Il y a plein de choses, quoi. Une voiture, c'est jamais parfait. Ça n'existe pas, le parfait en mécanique. Hein. Mm-hmm. Et tant que le drapeau n'est pas tombé, on peut casser tout, quoi.
Et c'est quand même ahurissant, enfin, de voir cet Écossais, là, cet Anglais, dès la première année, une telle maîtrise, parce que c'est quand même pas rien de dompter ces monstres mécaniques.
Voilà. Et puis se dompter soi-même, parce que on a vite fait de prendre la grosse tête, comme dans tous les sports, et de croire qu'on va plus vite, quoi, et qu'on est le meilleur. Et ça, maîtriser ça, et avec la pression des médias, parce qu'il faut quand même savoir que derrière, tout le long de l'année, il y a eu une pression énorme quand on a vu ce jeune arriver qui était devant, surprise totale, quoi, parce que.
Là, on sent qu'il y a du potentiel aussi. Là. Il y a vraiment un très gros chapeau.
Mais donc, ça s'est joué dans les stands cette année, le titre de champion.
Moi, pour moi, personnellement, je suis convaincu que c'est à l'intérieur même des stands que ça s'est joué. Ouais. On voit Ferrari qui commet peu d'erreurs. Il y a
C'est la page d'Antoine, ça. Hein.
Ah oui, je crois que c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais. Cet homme-là a de l'expérience, quand même. Hein.
Il y aura un après, je pense.
Il y aura un après, c'est obligé.
Ça va faire.
D'abord, parce qu'il y a encore, il faut savoir quand même, Schumacher est toujours un peu là derrière.
Ah oui, exactement. Il a fait des essais encore, là.
C'est lui encore qui roule avec l'auto.
Un bruit, on courut qu'il allait peut-être courir.
Bah, il prend même les taxis pour se rendre tout seul. Il prend le volant directement.
Tiens, Hamilton, il est comme Barros, hein. Il n'a plus de permis de conduire. Hein.
Ça y est. Il ne va pas pouvoir courir si on ne lui rend pas. Ouais. Parce que normalement, il faut le permis.
Ah oui.
Je ne sais pas comment ça va se passer encore, cette histoire-là. Bon, elle a fait des frades et des rocations.
Très bien. Allez, on va parler maintenant de rallye. Hein. C'était l'événement aussi. Ça sera, je pense, à mon avis, le sportif français de l'année. Cette année, ça va être vraiment. Il va enfin avoir son heure. Sébastien Loeb, 4 titres consécutifs donc, de champion du monde. Là aussi, une belle lutte avec notamment Marcus Grönholm et Ford qui remporte donc, la victoire chez les constructeurs. Immense champion, hein, que Sébastien Loeb.
Alors là, c'est un extraterrestre. Il vient d'ailleurs, celui-là, parce que c'est.
Et puis, très important.
Il faut savoir aussi que le rallye, comparativement au circuit, je dis pas que le circuit n'est pas dangereux. Mais le rallye, c'est bien au-delà de ce qu'on peut espérer. Hein. Quand on monte dans une voiture de rallye à 200 à l'heure sur des routes hyper étroites, et si on sort, on se fait très mal, quoi. Il n'y a pas de solution. Et là, je trouve qu'on a des gens, c'est un peu extraterrestre quand même. Hein. C'est des types... Et Loeb vraiment démontre que malgré une auto dont il se plaint un petit peu, qui n'est pas non plus... Il préférait sa Xara à la C4, mais... mais même avec une auto qui est un petit peu moins bonne, il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Puis alors, c'est un type tout à fait cool. Et là, il est monté dans une F1. Il a pris la F1 chez Renault. Alors ça, c'est quand même. Alors ça, il faut revenir dans les années 70, où justement on ne voit plus ça, mais on voyait les pilotes de F1 venir courir au Mans, par exemple. Mmh. Et là, on a un pilote de rallye qui peut aussi faire les 24
ils
heures
le
du Mans.
Ils le font, mais ils sont en fin de carrière.
Le problème, c'est qu'ils ont des contrats qui leur interdisent un tas de choses. Alors, c'est un petit peu dommage, parce que pour le public des 24 heures, c'est un public, il faut le savoir, quand même un petit peu à part. Mm-hmm. Les gens qui vont 24 heures du Mans vont pas forcément en F1 voir les F1, parce qu'ils aiment la mécanique, mais c'est complètement autre chose. C'est deux disciplines différentes. Gagner le Mans, et c'est une épreuve d'endurance. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de pilotes de grande notoriété qui vont au Mans.
Sauf en fin de carrière.
Ou des très jeunes qui arrivent. Mmh. Le fils de Grimmie l'a fait, de Brabham l'a fait. Mmh. Et nous, on a plein de pilotes, justement, qui font le Mans parce que ils peuvent, ils peuvent plus aller plus loin. Donc pour eux, ils font le Mans, mais c'est des pilotes de talent parce qu'il faut quand même rester au volant et rouler. Le Mans, c'est pas n'importe quoi.
Donc l'OB, il est parti pour plusieurs années, hein, là, parce que c'est pas fini. Il va essayer de.
Oui.
Même s'il y a une belle lutte avec Grenholm chaque année. Ah
bah tous les ans, c'est de toute façon. Ouais, ouais. Bah c'est deux pilotes au top niveau, Et puis ils ont des autos quand même. Hein. Ils ont les voitures, ils ont les écuries, ils ont quand même une assistance assez poussée derrière.
Hervé ?
Oui, juste une petite anecdote sur Sébastien Loeb. On disait que c'est quelqu'un de cool. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la grosse tête hein, par rapport à d'autres grands sportifs.
C'est extraordinaire.
Et moi, j'ai un copain qui a eu la chance de se retrouver dans le petit village alsacien dont j'ai oublié le nom.
Oui, moi aussi.
Où ils ont fait la fête. C'est-à-dire que c'est son club de supporters qui organise traditionnellement en fin d'année une soirée spéciale pour remercier Sébastien Loeb. Et il est venu avec son copilote et pendant 2-3 heures, il s'est prêté au jeu des interviews, des photos, des autographes. Et moi, je trouve ça super sympa, pour un sportif de ce niveau-là. Et j'en connais peu qui sont aussi disponibles pour leur public. Quoi.
Absolument. Une parenthèse, il faut se rappeler que le sport automobile, comme beaucoup de sports, ont tellement évolué qu'il n'y a plus cette communication qu'on avait dans les années 60.
On passe par des agents.
Moi,
j'ai
des photos. J'ai des années dans les années 60, par exemple, où on voit un champion qui est décédé, qui avait sa clé à bougie dans les mains pour changer lui-même ses bougies sur un circuit.
Ouais.
Il faut savoir que les grands pilotes de Formule 1 comme Graham Hill, comme Brabham, comme tous ces gens-là venaient avec un plateau, une remorque, une tente de camping et dormaient au pied de leur voiture.
Mm-hmm.
Et c'est fini, quoi. C'est absolument. Et il faut savoir que tous ces grands-là, comme Jabouille, comme Arnoux, et tout, ont fait des fêtes, mais à délirantes, quoi. On a des anecdotes de ça, mais les gars, même entre eux, arrivaient, ils faisaient des javas, à mourir, quoi. C'est,
c'est une autre époque, quoi.
C'est une autre époque, tout change. Hein.
Très bien. Alors, on va rappeler quand même donc que l'OB, à mon avis, devrait être Hervé, le champion des champions français. Ça, on en reparlera dans quelques jours. On va rappeler quand même auparavant, aussi dans le Paris-Dakar, la victoire de Peter Ancel-Cotteret en auto. Et des prêts en moto. Paris-Dakar, c'est encore une autre forme de
sport auto.
D'ailleurs, il va y avoir Brahim Hassloum qui va le faire.
Oui. Mais le Dakar, bon, je suis pas très très Dakar.
Oui, c'est vrai.
J'arrive pas à faire.
Pour ça, c'est de mon Dakar.
J'arrive pas à faire du 4x4.
Ouais.
Je suis désolé, mais je suis pas très très 4x4.
Mm-hmm.
Mais ça reste un exploit. Mais ce qui est dommage, c'est que l'esprit du Dakar s'est encore transformé fois.
Bah,
et l'esprit du Dakar, c'était quand même à la base des amateurs. Sabine avait créé un truc qui était génial.
Les poireaux, on appelait ça. Ouais.
Tout à fait. Et je trouve que on partait avec une 4L, on partait avec les moyens du bord.
Marot l'a gagné.
Marot, bien sûr. Les frères Marot ont une belle histoire du Dakar. Mmh. Et maintenant, les écuries arrivent et voilà quoi. Alors, je mets une petite parenthèse. Cette année, on a assisté à Zandvoort. Il y avait l'AGP1 Grand Prix. Il faut savoir que c'est des moteurs V8, c'est des mini, enfin, ce sont des Formule 1, mais avec le même poids, la même puissance, les mêmes pneus. Il faut savoir qu'il y a un petit garçon de Chartres qui roule dans cette auto et ils font le tour du monde avec, ils n'ont pas de numéro sur la voiture, il y a un pilote par pays.
D'accord.
C'est-à-dire que chaque pays a une Formule 1, pratiquement, qui a le même nombre de chevaux que tout le monde, qui a le même poids, qui a les mêmes pneus et qui fait un championnat. Et ça, c'est sympa, c'est très très sympa.
D'accord, et il fallait le dire, ça fait aussi partie de ces grands exploits de l'année.
Oui, parce qu'on
2007.
Parle. Ce qui est dommage, c'est qu'on parle souvent des grands, puis on a des tout petits qui galèrent, voire deux fois plus.
Sauf chez nous,
et qui galèrent deux fois plus que les grands, quoi. Parce que ça aussi, c'est. Non,
très bien. Allez, Werner, Pirot et Biela, c'est le trio d'Audi qui a gagné donc cette année les 24 heures du Mans. La moto, on va rappeler que Stoner, donc en GP, Lorenzo en 250 et Tamalski en 125 cm3 ont été donc. Champion du monde, ça vous intéresse la moto sinon ?
Moins, mais je trouve que là aussi c'est un sport extraordinaire parce qu'on a des acrobates sur une moto, quoi. C'est carrément de la folie des mentes. Hein. Je crois que là il faut.
On l'a bien vu avec Rossi. Hein.
C'est au-delà de tout ce qu'on peut espérer, quoi. C'est, là aussi c'est un sport physique et moral. Rossi qui part avec les
poignets cassés.
Ah, oui, enfin, ouais. Et ils partent dans des... Mais c'est plus que ça, c'est les tripes qui sortent. Là. Enfin, on ne peut pas imaginer. Donc, j'écoutais l'appendicite de la tennisman. Il faut y aller quand même sur le terrain. Après une opération, il faut avoir... Il faut y retourner. Quoi. Mm-hmm. L'esprit de courage, il le faut. Et ça nous manque un peu dans ce pays aussi, des fois.
Alors, 2008, ça promet donc de belles compétitions. On va rester Formule 1 ou bien rallye, on va rester dans cette lignée de deux superbes années 2007 de rallye et de Formule 1.
Je pense que ça va. Enfin, bon, Loeb pour l'année prochaine. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va changer parce que chez Citroën, l'organisation va changer, je crois, un peu.
Oui. C'est Fréclin qui s'en va.
Fréclin va partir, ouais. Mais comme c'est un vieux renard, je le connais bien, il va. C'est un deuxième Todd. Hein. Ouais. On oublie que. Ouais. On en parle peu, mais c'est un grand monsieur à qui on peut tirer la référence, qui sait ce que c'est qu'une automobile, donc, et qui sait surtout ce que c'est qu'un pilote. Parce qu'il a roulé lui-même, donc on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Et il faut savoir que Todd aussi a commencé chez Alpine en copilote, donc ce sont des gens qui ont mis... c'est pas des techniciens qui sont avec un ordinateur en disant vous faites ça. Non, c'est des gens qui, à qui un pilote vient, dit ça marche pas, et attends, ça marche pas, pourquoi parce que tu freines pas bien là, ou parce que tu mets la voiture un peu moins en équilibre, et ainsi de suite. Ça, c'est hyper important, je veux dire.
Très bien. Allez, on prend la mer maintenant. On va donc parler de voile. On rappelle que Camas et Steve Ravulsin sur multicoque, des joyaux, le Bang sur monocoque ont remporté l'épreuve de la Jacques Vabre. Il n'y a pas de bateau français en demi-finale de la Coupe de l'América. Et puis moi, j'ai bien aimé l'exploit de Belle Maud François qui a gagné son pari du Tour du Monde à la voile contre-courant, les vents de face.
Tout à fait, dans des conditions difficiles, parce qu'elle a essuyé plusieurs tempêtes. La queue d'un ouragan également, donc des conditions. Elle n'avait pas choisi le plus facile, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on sait que c'est une femme de caractère, elle l'a déjà prouvé par le passé, mais je crois qu'il faut lui tirer un grand coup de chapeau pour ce qu'elle a réussi cette année. Hein.
Oui, et puis on va être derrière Bertrand de Broc. Hein. D'ailleurs, Christian Béron, un de nos amis qui a écrit un bouquin, était hier dans l'émission de Jean-Marc. Je l'ai écouté, il parlait de Bertrand de Broc, hein, qui est parti tenter le record du monde en solitaire. Je crois qu'il a jusqu'au 10 février pour arriver, donc on va être derrière Bertrand de Broc aussi, qui ça fait partie de ces grands donc marins dans la légende de ce sport, hein. C'est aussi des gens hors du commun, Lionel,
en plus ce sont des Formule 1 de la mer, c'est vrai.
Il a battu le record du monde là, en 24 heures là, de temps là, il a fait plus de
je tire ma révérence, quoi. Faut partir tout seul, faut penser à tout là,
tout à fait.
Et puis là, si on tombe, on tombe.
Le disait hier Christian Béron, il y a encore un mythe, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le bateau. C'est vrai que finalement, même si c'est encore ultra moderne, il n'y a pas de récit, il y a un match de foot, on le voit, le tennis, on le voit, on sait tout. Le bateau, il y a encore toujours un peu de mystère.
Hein. Complètement du mystère. C'est l'aventure à l'état pur, on ne sait même pas ce qu'on va rencontrer ni ce qu'on va voir.
Tout à fait. Il faut avoir une force de caractère
extraordinaire. Ça dépasse l'entraînement.
Particulièrement important, parce que c'est vrai qu'il faut tout simplement s'imaginer, par exemple, pour Maud Fontenoy, se retrouver sur un petit bateau, parce que c'est quand même un petit bateau par rapport à l'immensité, bien entendu, de l'océan, se retrouver dans des creux quelquefois de 10 mètres, toute seule, de nuit, par exemple, en pleine mer, je peux vous dire qu'il faut un sacré courage pour faire ça, et que une certaine volonté. Hein.
J'ose même pas imaginer.
Ouais. Et des joyaux.
D'ailleurs, une parenthèse, c'est qu'il faut savoir aussi qu'ils sont capables de se réparer s'ils se blessent eux-mêmes, et ça, il faut le savoir, parce que...
Bertrand de Broc, justement,
c'est cousu, absolument, et ça, on oublie tous ces petits détails qui font les choses, parce que...
On ne peut compter que sur soi-même. Il n'y a personne pour l'aider, hein, c'est sûr. Mm-hmm. Hein.
Et puis tiens, justement, je voulais quand même, pour Desjoyeaux, dire que c'est un des plus grands champions de voile, parce qu'il a tout gagné, Desjoyeaux. Il a gagné la Transat en double, il a gagné le Vendée Globe Challenge, il a gagné donc la Route du Rhum l'année dernière, la course du Figaro aussi. C'est quand même un des plus beaux palmarès de la voile qui est en train donc de se constituer, Desjoyeaux.
Puis avec des beaux bateaux.
Et ce qui est très beau, c'est ces sportifs qui sont dans l'élément, en l'occurrence là, la mer. Je crois que c'est fondamental, il faut le souligner. Mm-hmm. Arriver à maîtriser l'élément, à surfer dessus, parce que ça va très vite. Hein, quand on voit le record là, qui vient d'être battu, ils sont à 40 nœuds, plus de 40 nœuds sur une journée. Je veux dire, c'est incroyable.
C'est fou.
Sur des bateaux comme ça, ils volent carrément sur l'eau. Quoi. Mm-hmm. Il y a juste les...
Mais là, la machine peut-être n'est pas suffisante, quoi. Il y a beau y avoir la machine, s'il n'y a pas quand même un petit sens de la navigation, même avec tous les appareils, ça suffit peut-être pas par rapport à la Formule 1.
Voilà, tout à fait. Moi, ouais. Je pense que comparativement à une Formule 1, il faut savoir qu'une F1 serait aujourd'hui, on le dit dans les couloirs, mais serait plus facile à conduire qu'une Formule Renault. Mm-hmm. Et donc, elle est plus rapide, elle est plus vite, mais en fait, elle colle tellement au sol que par rapport à une Formule Renault, ça serait plus facile. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que des gens qui viennent de la F3 peuvent passer pratiquement à la F1. Ça n'existait pas, ça.
D'accord.
Mais je reviens sur le bateau, parce que le pilote, je pense que l'homme n'a pas encore, la machine ne l'a pas dépassé. Ouais,
heureusement.
Mais... il faut manœuvrer les voiles, il faut connaître les vents, il faut savoir de quel côté. Il y a plein de choses, la vague, comment on la prend.
C'est le milieu. Autant il connaît le circuit, autant là dans l'élément naturel, la mer, ça change tout le temps. Il faut vraiment s'adapter à la seconde près. C'est ça qui est magnifique.
Et puis toujours cet esprit de survie, parce que je pense qu'on trimballe en permanence cet état d'esprit de dire il arrive quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait. Or, eux ne se posent pas la question, ils y vont, et au moment où l'incident arrive, on fait.
C'est ce que disait Maud Fontenoy disait qu'il fallait une extrême vigilance de tous les instants, que la moindre seconde pouvait coûter la vie, et il suffit de se rappeler un des plus grands marins de tous les temps, Tabarly.
Ouais.
Une seconde d'inattention et voilà. C'était fini, quoi.
Et sans sécurité, lui. Enfin, c'était la voile.
Qu'on n'a jamais retrouvé.
À l'ancienne. Allez, le carillon, la pub, et puis on revient pour la deuxième heure de cette rétro sport de l'année 2007. On y va.
Il est 10h, bon dimanche sur RVE.